Voici une question dont nous avons tous besoin de connaître la réponse. Devons-nous consulter les diseuses de bonne aventure quand nous sommes dans l'épreuve? Les Saintes Écritures vont nous instruire bien clairement à ce sujet, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. Les voici donc sans plus tarder. Où pouvons-nous nous reposer quand nous sommes dans l'épreuve? Est-ce que le Seigneur voit notre misère quand nous sommes dans l'épreuve? Est-ce que le péché a des conséquences sur notre santé physique et morale? Est-ce qu'une personne joue le jeu du diable quand elle critique ses frères et sœurs dans la foi? Devons-nous consulter les diseuses de bonne aventure quand nous sommes dans l'épreuve? Est-il important de parler de la bonté de Dieu avec les gens qui nous entourent? Comment est-ce que le croyant peut trouver la paix dans ce monde méchant et turbulent? Est-ce qu'il arrive à Dieu d'abandonner le croyant qui est dans l'épreuve? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner le conseil de Dieu. Nous aurons les réponses à nos questions dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à bien recevoir ce bel enseignement qu'il va nous donner. Prions. Oui, Seigneur, on sait qu'on va recevoir un bel enseignement de ta part, par ta merveilleuse parole. Et on te demande d'un seul cœur de disposer nos cœurs, de nous aider à oublier le quotidien, à nous concentrer sur toi et sur ta parole, pour que nos cœurs puissent vraiment t'adorer en recevant cette parole et qu'on puisse la mettre en pratique pour faire ce qui te plaît à toi, car tu es notre Dieu et on t'aime de tout notre cœur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Les chrétiens ne sont pas familiers avec la plupart des psaumes. Pourtant, ils forment un des livres les plus riches des Écritures. Selon J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, si une attention appropriée était donnée au livre des psaumes, nous verrions les Écritures sous un autre jour, spécialement en ce qui concerne le plan de Dieu pour la nation d'Israël. David a composé presque tous les psaumes que nous avons examinés jusqu'ici, et il a probablement aussi composé la musique qui les accompagne. Chaque psaume a une signification spéciale pour chacun de nous. De nouveau, au psaume 31, nous voyons que les croyants ont des ennuis. Ce fut le cas dans de nombreux psaumes, mais tous ceux qui servent Dieu en ont. Le psaume 31 parle des épreuves que David a rencontrées dans son passé. Le psaume jette aussi un regard prophétique aux épreuves que subira la nation d'Israël pendant la grande tribulation. Ce psaume s'applique aussi à nous qui avons des épreuves. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 31, verset 1er. Au chef des chantres, psaume de David. Au verset 2, nous lisons « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. » Délivre-moi dans ta justice. David savait que Dieu ne nivellerait pas ses standards vers le bas pour sauver des pécheurs. Le péché exigeait une peine, et si ce n'était pas le pécheur qui payait pour ses péchés, ce devait être un substitut. Dieu a un plan. Il peut sauver des pécheurs parce que quelqu'un a payé pour nos péchés. C'est son Fils, Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous. Puisqu'il a fait cela, David dit, au verset 3, « Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. » Jésus-Christ est le rocher sur lequel nous pouvons nous reposer. Nous avons besoin d'un rocher solide, pas d'un petit caillou. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu chapitre 16, versets 15 à 18. Cette pierre sur laquelle l'Église est fondée est Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Citation de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, des paroles de l'apôtre Paul. Notre Sauveur, Jésus-Christ, est le rocher sur lequel nous pouvons nous reposer. Une dame chrétienne parlait de l'assurance de son salut. Parfois, il m'arrive d'avoir peur et je tremble sur mon rocher, mais le rocher ne tremble jamais sous mes pieds. C'est un rocher solide. Votre vie est-elle déposée sur ce rocher? David en a encore à dire au sujet de ce rocher. Verset 4. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Le Seigneur Jésus est-il votre rocher? Est-ce sur lui que vous vous appuyez aujourd'hui? Est-il votre forteresse? Une forteresse sert à nous protéger. Nous en avons besoin d'une. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Pas parce que je suis le roi David, mais à cause de son nom. Versets 5 et 6. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Au sujet de la crucifixion, nous lisons. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Luc, chapitre 23, verset 46. Lorsqu'Étienne, le premier martyr, fut lapidé, il utilisa aussi la même expression. Et il lapida Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Acte, chapitre 7, verset 59. Au cours de l'histoire, de nombreux martyrs ont utilisé cette expression. Par exemple, lorsque Jean Hus fut exécuté, l'évêque dit, « Maintenant nous remettons ton âme au diable. » Très calme, Hus répondit, « Je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Je te remets mon esprit que tu as racheté. » Polycarpe, Bernard et Jérôme de Prague ont aussi prononcé ces paroles lors de leur martyre. Ces serviteurs de la véritable Église du Christ ont mis leur confiance en Jésus et en ce grand Dieu. Verset 8. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Jésus-Christ nous voit lorsque nous sommes dans l'épreuve. Savoir que Dieu voit notre misère est une grande consolation. Lorsque Dieu a voulu faire sortir son peuple hors d'Égypte, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Le Seigneur avait vu les souffrances de son peuple. Il avait entendu ses gémissements. Il connaissait ses tribulations et il est venu pour le libérer. Les évangiles racontent une traversée de la mer Galilée que firent les disciples. Ils furent surpris au milieu de la mer par une tempête alors qu'il faisait nuit. Les disciples pensaient qu'ils y passeraient cette nuit-là. Mais Marc raconte au sujet de Jésus, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Marc chapitre 6 verset 48. N'est-ce pas merveilleux? Il a vu son peuple en Égypte, il a vu ses disciples dans la barque, et il nous voit encore aujourd'hui. il nous voit dans nos épreuves. C'est une consolation. Maintenant, David prie, verset 10, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » Chers amis, avez-vous des ennuis? Plutôt que de vous plaindre à tout le monde, pourquoi ne pas aller vers le Seigneur? Dites simplement au Seigneur ce qui se passe. C'est ce que fit David. Lisons les versets 11 et 12. « Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. » Le péché a ses conséquences sur notre santé physique et morale. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Le péché ne nous fait jamais de bien. Retenez cette vérité, le péché ne nous fait jamais de bien. La loi de Dieu est inscrite dans notre conscience. Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Et nous avons en nous la pensée de l'éternité. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Les psychologues reconnaissent que la culpabilité affecte les gens. Cependant, ils essaient de nous aider en nous encourageant à rejeter les valeurs de Dieu. Mais elles sont inscrites dans notre cœur. Le péché nous rendra toujours misérables. Il n'y a qu'une seule solution. La voici. Venir à Jésus-Christ pour recevoir un plein pardon, afin qu'il restaure aussi notre âme. Lorsque nous refusons de nous repentir, le Seigneur permet que nous ayons des épreuves et que nous soyons misérables afin de nous attirer vers lui. Lorsque nous lui cédons le contrôle de notre vie, il nous pardonne, nous restaure et nous fait goûter la joie d'une relation personnelle intime avec lui. Chaque fois que vous verrez l'épreuve dans votre vie, pensez à cette phrase du Seigneur Jésus. Plus près de moi, mon enfant. Jouez-vous le jeu du diable en critiquant vos frères et vos sœurs dans la foi? Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Les ennemis des croyants font tout pour l'humilier. Si quelqu'un cherche la patience et l'humilité, c'est un hypocrite. S'il fait attention à la manière qu'il dépense l'argent, il est avare. S'il dépense, il est accusé de gaspiller les biens du Seigneur. S'il chante à l'église, il le fait pour sa gloire personnelle. S'il ne chante pas, c'est un chrétien charnel qui refuse de servir. S'il reprend quelqu'un, il est accusé de juger. S'il ferme les yeux, il tolère le péché dans l'église. C'est ce genre de critique qui garde de nombreuses personnes loin du service chrétien et qui en décourage d'autres. Vous, êtes-vous un ami des serviteurs de Dieu? Ou jouez-vous le jeu du diable en critiquant vos frères et vos sœurs dans la foi? Les critiques qui font le plus mal sont celles qui viennent des personnes de notre entourage. Verset 16. Mes destinées sont dans ta main. « Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. » Voilà une expression fort intéressante. De nombreuses personnes consultent les diseuses de bonne aventure pour faire lire les lignes de leurs mains. La diseuse interprète les lignes de leurs mains pour elles et prédit leur avenir. Mais notre destinée est dans les mains du Seigneur Jésus, et ses mains portent la marque des clous. Je peux voir mon péché dans ses mains, ainsi que ma guérison. Ce sont les mains tendres d'un berger. Il a recueilli une brebis perdue, et il l'a placée sur son épaule. Mes besoins et ma protection sont entre ses mains. Un jour, il reviendra avec une grande bénédiction et ses mains nous béniront. Je me réjouis que ma destinée soit dans ses mains. Verset 17. « Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Fais luire ta face sur ton serviteur. Une autre belle expression. Un commentateur hébreu a dit que la face de Dieu est son oint, c'est-à-dire Jésus-Christ, la personne qu'il s'est choisie. Dieu est un esprit. Je ne sais pas à quoi il ressemble, ni ce qu'il ressent, ni comment il agit. Il est esprit. Mais le Seigneur Jésus est venu parmi nous pour nous montrer le Père. Il est le visage de Dieu. Par lui, nous connaissons Dieu. Cela me fait penser à une petite fille que sa mère a conduite à sa chambre au deuxième afin de la coucher pour la nuit. La mère est redescendue et peu après elle entendit sa fillette pleurnicher. Elle lui cria « Dors, Dieu est avec toi !» Mais la petite fille désirait que quelqu'un reste avec elle. Sa mère lui dit encore « Dors, Dieu est avec toi !» « Je sais, » répondit la fillette, « mais je veux quelqu'un avec un visage. » Mes amis, c'est ce dont nous avons tous besoin. Nous sommes des enfants ici sur terre et nous voulons quelqu'un avec un visage pour se tenir près de nous. Le Seigneur Jésus est Dieu avec un visage. Vous voulez connaître Dieu? Regardez vers Jésus-Christ. Il est le visage de Dieu. Versets 18 et 19. « Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. » Souvent, les premiers à critiquer un serviteur de Dieu, ce sont les orgueilleux. Ils désirent prendre beaucoup de place, et pour ce faire, ils critiquent et abaissent les autres. Ce sont eux qui parlent le plus fort. Ce ne sont pas les chrétiens fidèles qui seront honteux et confondus le jour du jugement, mais plutôt leurs adversaires. Dans le ciel, il n'y aura ni menteur, ni arrogance et ni mépris. Ce sera la paix, n'est-ce pas merveilleux? Plus rien n'entravera l'amour entre les enfants de Dieu. Verset 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Avez-vous dit à quelqu'un combien bon est Dieu? Combien grande est la bonté de Dieu? Avez-vous dit à quelqu'un combien bon est Dieu aujourd'hui? Le psaume 107, versets 1 et 2 dit, « Louez l'Éternel !» Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Nous aimons parler de nos voisins, de nos enfants, de nos parents, de notre patron, même de notre pasteur, mais combien d'entre nous aimons parler de la bonté de Dieu? Quand est-ce la dernière fois que vous avez parlé de la bonté de Dieu à quelqu'un? Je vous encourage à le faire maintenant, aujourd'hui. Versets 21 à 25. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. La paix se trouve dans notre relation avec Dieu. Tu les protèges sous l'abri de ta face. Nous vivons dans un monde méchant et turbulent. Cependant, le croyant peut connaître la paix en étant en relation intime avec le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas amener la paix sur cette terre, et il n'y en a jamais eu. Cependant, nous pouvons être en paix avec Dieu qui nous garde. Vous connaissez la paix de Dieu? Connaissez-vous cette paix que Dieu seul peut donner, peut accorder aux siens? Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur Jésus. Dieu n'abandonne jamais les siens. Je disais, dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Souvent, lorsque nous subissons des épreuves, le diable essaie de nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Nous sommes de trop grands pécheurs, et Dieu ne veut plus de nous. Les épreuves de notre vie ne sont pas nécessairement dues à nos péchés. Nous vivons dans un monde cruel et injuste, donc il ne faut pas s'attendre à ne pas en avoir. Job, le meilleur homme sur terre, en a eu. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, en a eu. Il a eu des épreuves lui aussi. Il en a eu simplement parce qu'il aimait Dieu, et d'autres parce qu'il a péché. Le Seigneur Jésus a aussi eu des épreuves, donc si nous en avons moins qu'eux, remercions Dieu. Les épreuves servent souvent à nous rapprocher de Dieu, qui n'abandonne jamais les siens. Écoutez ce texte tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Quelle assurance! Maintenant, nous passons au psaume 32. C'est à la prochaine émission que nous étudierons le texte en détail. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le psaume et faire quelques remarques préliminaires. Chers amis, débutons notre lecture du psaume 32, verset 1er. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ce psaume est considéré un bijou spirituel. Cependant, il est mal compris. Le titre du psaume est, de David, cantique. Le mot hébreu traduit cantique est machil. Ce mot signifie poème didactique. Donc, c'est un psaume qui enseigne davantage qu'une confession de David. Le psaume 51 est une véritable confession, car c'est une prière adressée à Dieu. Le psaume 32, David y raconte sa confession et sa restauration. Il ne s'adresse pas uniquement à Dieu, mais il parle aussi au lecteur. Le mot « sakal », qui a la même racine que « machil », est utilisé en rapport avec la nation d'Israël. Nous lisons dans le prophète Daniel, chapitre 11, verset 33. « Et les plus sages, c'est-à-dire « sakal », parmi eux donneront instruction à la multitude. » Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Nous lisons aussi, quelques-uns des hommes sages, c'est-à-dire sakals, succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Daniel, chapitre 11, verset 35. De plus, nous lisons, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence, c'est-à-dire sakals, comprendront. Daniel, chapitre 12, verset 10. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, en parlant des temps difficiles que vivrait la nation d'Israël dans le futur, dit « C'est pourquoi ». Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu, chapitre 24, verset 15. En fait, Jésus leur dit de s'enfuir lorsqu'ils verront l'abomination de la désolation. Le psaume 32 est un psaume didactique, c'est-à-dire un psaume qui nous enseigne. Ce psaume instruira le peuple d'Israël dans l'avenir, mais aujourd'hui, c'est à nous qu'il parle. Après que David eut péché et que le prophète Nathan lui dit « Tuez cet homme-là », ce psaume va nous apprendre à vivre pleinement du pardon que Dieu nous accorde. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant cette fois les psaumes 32 et 33.
Merci, Régin. Eh bien, tu as dit que tous ceux qui servent Dieu ont des épreuves. Et c'est bien vrai. La parole de Dieu nous l'a dit aujourd'hui, et après un certain nombre d'années à servir Dieu, on peut voir que c'est bien vrai. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Quel réconfort! Régent nous a mentionné aujourd'hui que le rocher sur lequel nous nous reposons, c'est Jésus-Christ. Quel rocher solide! Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu de nous avoir tant aimés, qu'il a donné ce rocher solide qu'est Jésus-Christ, afin qu'en croyant en lui, on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Et non seulement il donne la vie éternelle aux croyants, mais il est constamment son rocher solide, peu importe ce que le croyant est en train de vivre. Quel encouragement! Ceci me rappelle un chant qu'on fait à l'église de temps en temps. Il est très court, mais il en dit long. Voici les paroles. « Entends, ô Dieu, ma prière et mon cri. Du bout de la terre, je crie à toi, Seigneur. Et quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le roc, trop élevé pour moi, trop élevé pour moi. » Il m'arrive de chanter ce chant quand je suis dans l'épreuve. Parfois, il vient à ma pensée dans mon auto, ou à l'endroit où je prie et lis sa parole, ou même ailleurs. Il m'arrive même de le chanter en m'éveillant. Et je sais que Dieu m'entend et qu'il exauce ce chant qui est une belle prière. Mon frère, ma sœur, parfois on se sent faible, incapable d'affronter ce qui se présente devant nous. Dans ces moments, allons à Dieu et demandons-lui de nous conduire sur le roc, ce rocher qu'est Jésus-Christ. J'ai bien aimé ce que Réjean nous a raconté au sujet de la dame chrétienne qui parlait de l'assurance de son salut et qui disait « Parfois, il m'arrive d'avoir peur et de trembler sur mon rocher, mais le rocher, lui, ne tremble jamais sous mes pieds. C'est un rocher solide. » Mon ami, Jésus est tout pour moi. Il est mon sauveur, mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître, et il est mon rocher. Il est le seul à pouvoir me soutenir en tout temps. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a personne qui peut venir au Père s'il ne passe pas par Jésus. Jésus est la porte des brebis. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Mon ami, Jésus est l'agneau de Dieu qui veut en ce moment ôter ton péché, comme il a ôté le mien il y a plusieurs années. Pour qu'il puisse ôter ton péché, il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Je mentionne souvent ce verset dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, mais je vais le redire parce que c'est tellement important de le savoir. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, on reçoit une très bonne nouvelle. Paul dit que les pécheurs sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est gratuit, t'as rien à payer. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Jésus frappe à ta porte, laisse-le entrer. Repens-toi, demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.